Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end. Il est 13h à Melbourne, 3h à Paris, 4h du matin à Kiev. Vous écoutez SBS French, votre programme en français. Au micro, Marianne Murat, nous sommes ensemble pendant une heure. Aujourd'hui, nous avons préparé cette émission avec Christophe Mallet, une émission largement consacrée à l'actualité en Ukraine. On va aussi évoquer les intempéries en Australie et le festival du film français. C'est tout de suite, c'est pendant une heure, on commence avec votre journal. La une de l'actualité de ce dimanche 6 mars 2022. Fin du cessez-le-feu pour évacuer les civils en Ukraine, les soldats russes ont repris l'offensive. Le président ukrainien appelle les citoyens à ne rien lâcher. Les intempéries sur la côte est de l'Australie continuent leurs ravages. La première du Queensland lance un appel pour récupérer plus de 2 millions de dollars. Et enfin, le décès de la légende du cricket Shane Warne. Les hommages se succèdent, vous l'entendrez dans la page sport à la fin de ce journal. Onzième jour de la guerre en Ukraine aujourd'hui et les combats ne faiblissent pas. Le président Volodymyr Zelensky appelle l'OTAN à l'aide. Il réclame à l'Occident la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. L'alliance militaire lui a répondu, c'est non. Pour son chef Jens Stoltenberg, cette zone d'exclusion aérienne, lire entre les lignes, abattre les avions russes qui survoleraient l'Ukraine, reviendrait à entrer dans une guerre à part entière pour l'Europe. Le président russe Vladimir Poutine a lui aussi réagi, on l'écoute.
By the way, these sanctions that are being imposed, they are akin to declaring war. But thank God, we haven't got there yet. I think our so-called quote-unquote partners still have an understanding of what the ramifications and threats to everybody could be, despite some reckless statement like the one made by Great Britain's foreign minister when she blurted out that NATO could be involved in the conflict.
Autre discours, autre président, mais même sémantique. Volodymyr Zelensky, qui critique vivement le refus de l'OTAN, exhorte les habitants du Donbass à se battre encore et encore.
Nobody put Donbass on its knees. And no one will be able to do that. Everyone in Donetsk and Luhansk knows these words. They were often repeated earlier. What about today? Donbass, today is the time. We appeal to all people in the temporarily occupied territory. To all who hear us, whose memory has not been erased by propaganda, whose eyes have not been closed by fear, whose soul has not been mutilated by cynicism, fight for your rights.
Dans le même temps, la Russie a annoncé reprendre son offensive sur deux villes assiégées du sud-est de l'Ukraine, dont la célèbre Mariupol. Fin du cessez-le-feu donc, qui avait été déclaré afin de créer un couloir humanitaire pour évacuer les civils. Cette évacuation a finalement été reportée. Les habitants sont plus que jamais en danger dans ces deux villes où les combats font rage. Pour le gouvernement russe, écoutez, il ne fait aucun doute que les soldats ukrainiens sont responsables de cet échec.
The nationalist battalions used the ceasefire to regroup and fortify their positions. Due to the Ukrainian side's unwillingness to pressure the nationalists or extend the ceasefire, the offensive was resumed from 1800 GMT, Moscow time.
Et pour plus de détails sur la fin de ce cessez-le-feu, reportage à Mariupol par Harry Kuchmik pour Radio France Internationale.
Les bombes continuent à tomber sur Mariupol. Le cessez-le-feu, censé durer quelques heures afin de laisser sortir les civils de cette ville assiégée, n'a pas été respecté par les soldats russes. La mairie a donc décidé de stopper les évacuations. Les voitures qui avaient commencé à se rassembler ont été obligées de quitter le point de rendez-vous pour se mettre à l'abri et des témoins sur place parlent d'une situation chaotique. Mais des négociations seraient est toujours en cours entre Russes et Ukrainiens, non seulement pour que les habitants puissent partir, mais aussi pour acheminer de l'aide humanitaire. Car les habitants manquent de tout, y compris de l'eau. Des témoins rapportent que la population est obligée de faire fondre la neige pour en avoir. La prise de Mariupol, une ville de 450 000 habitants, serait un tournant important dans cette guerre, car elle permettrait la jonction entre les forces russes de la Crimée, qui contrôlent déjà les ports clés de Berdiansk et de Kherson, et les troupes séparatistes du Donbass. De là, les militaires pourraient pousser plus vers le centre et le nord, où les combats font toujours rage, notamment à Kharkiv et à Kiev.
Ce week-end également, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, la centrale de Zaporijjia, a été touchée par les frappes russes. Un incendie s'est déclaré, incendie maîtrisé ensuite. Il n'y aurait a priori pas de conséquences sur les niveaux de radioactivité. Mais lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadrice des États-Unis, Linda Thomas-Greenfield, a dit que cette attaque était une dangereuse escalade. On l'écoute.
By the grace of God, the world narrowly averted a nuclear catastrophe last night. We all waited to exhale as we watched the horrific situation unfold in real time. I applaud the ability of the Ukrainian operators to keep all six reactors in safe conditions while under attack and to report as they were able to their nuclear regulator.
Et dans ce contexte, Scott Morrison s'est entretenu il y a quelques heures avec le président ukrainien. Le premier ministre australien a rappelé à Volodymyr Zelensky que l'Australie se tenait aux côtés du peuple ukrainien, continuerait d'envoyer de l'aide militaire et humanitaire et a salué le courage du président ukrainien. Quelques heures avant cet entretien téléphonique, une manifestation avait lieu dans les rues de Sydney. Des Ukrainiens vivant en Australie qui protestent tous les jours depuis 11 jours contre l'invasion russe. L'Australie a accordé plus de 1000 visas de réfugiés depuis le début de la guerre. Mais pour ces manifestants, le problème n'est pas d'avoir le droit de venir en Australie, mais la difficulté de sortir d'Ukraine.
My family are still in central Ukraine, and unfortunately, even having Australian visa, they can't evacuate from there because there's ongoing bombing every day.
Look at this sky; it's peaceful sky, but when it's just landing on your head, on your kids' head, you can't protect them. How can you feel? There is no words to describe my feelings.
Autre manifestation pour demander la fin de la guerre en France. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues des grandes villes comme Rennes, Tours, Dijon ou encore dans la capitale. Aglaëde Gautreau a suivi le cortège parisien pour Radio France Internationale.
Des applaudissements pour le peuple ukrainien et des drapeaux bleus et jaunes qui flottent dans les airs. Dans la foule, Olena est ukrainienne. Elle étudie en France depuis le mois de septembre. Toute sa famille habite en Ukraine. Aujourd'hui, venir manifester, c'est sa seule façon de soutenir ses proches.
Ce problème, ce n'est pas le problème seulement d'Ukraine, mais c'est le problème de tous. Et on doit être ensemble contre Poutine, et pas contre le peuple russe, mais contre Poutine, parce que vraiment, il va jamais arrêter.
Parmi les manifestants, des Ukrainiens, mais aussi des Français qui se sentent concernés, Antoine brandit fièrement un drapeau étoilé.
On a l'impression que c'est l'Europe, l'Union européenne, qui est attaquée. Donc ça m'a semblé important de montrer que l'UE est là, et envoyer le message que les gens sont derrière l'UE et vont se battre.
Sophie et Antoinette sont amies. Pour elles, ce rassemblement, c'était une priorité.
On fait tout ce qu'on peut faire, pas forcément grand-chose, mais au moins, on est là, on se bouge, quoi.
Moi, depuis 2014, je me pose énormément de questions. On sait bien que la guerre, c'est possible, mais on ne veut pas y croire.
Les organisateurs prévoient de nouveaux rassemblements dès la semaine prochaine.
Sur le terrain, les pertes humaines, justement civiles et militaires, sont difficiles à estimer. Kiev fait état d'au moins 350 civils et de plus de 9000 soldats russes tués, sans mentionner ses propres pertes militaires. De son côté, Moscou évoque 2870 morts côté ukrainien, près de 500 côté russe. Et selon les Nations Unies, plus d'1 300 000 réfugiés ont déjà fui l'Ukraine. La majorité d'entre eux s'est déplacée en Pologne, où s'est rendu hier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken.
Pour aider à répondre aux besoins des Ukrainiens en Pologne et dans d'autres pays, l'administration Biden vient de demander au Congrès 2,750 milliards de dollars d'aide humanitaire. Cet argent est destiné à répondre aux besoins des personnes et des communautés vulnérables sur le territoire ukrainien, ainsi qu'à soutenir les services d'aide aux réfugiés, notamment ici en Pologne. Cela s'ajoute aux plus de 54 milliards de dollars d'aide humanitaire pour l'Ukraine que nous avons annoncé la semaine dernière. Le peuple polonais sait combien il est important de défendre les libertés, les Américains aussi. Et nous resterons solidaires pour soutenir l'Ukraine et contre l'invasion non provoquée, injustifiée et préméditée par la Russie.
Malgré l'échec des deux premières tentatives de négociation ces derniers jours, la Russie et l'Ukraine vont tout de même tenter un troisième round de pourparlers. Il est prévu demain à la frontière avec la Biélorussie. Dans le reste de l'actualité, en Australie, un tremblement de terre de magnitude 3,8 a été enregistré près d'Adélaïde. Il a été ressenti près du mont Barker à 7h20 ce dimanche. Plus de peur que de mal, selon le bureau de météorologie, il n'y a pas de menace de tsunami ni pour le continent, ni pour les îles et territoires alentours. Dans le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud, le bilan meurtrier des inondations dévastatrices s'élève désormais à 17. 17 personnes qui ont perdu la vie suite aux intempéries. Les chefs d'État et de gouvernement fédéraux ont promis ensemble plus d'aide, qu'elle soit humanitaire ou financière. Et justement, la première du Queensland, Anastasia Palaché, lance un appel pour obtenir plus de 2 millions de dollars. On l'écoute.
That money is going to go directly to $500,000 each to Australian Red Cross, Lifeline, the Salvation Army and St. Vincent de Paul. Now a further $100,000 will go to GiveIt. And everyone knows the strong reputation of GiveIt. And they actually go out and search and supply washing machines or dryers or dishwashers, whatever people need, they buy directly for them.
Certaines zones entament maintenant le long temps du nettoyage, d'autres sont encore totalement sous les eaux. La pluie devrait continuer à tomber en trombe aujourd'hui dans ces deux états. Et pour le reste justement de la météo en Australie cet après-midi, on commence par l'ouest dans le sens des aiguilles d'une montre. Il fera beau à Perth avec 34 degrés, nuageux à Adélaïde 24 degrés, des averses à Melbourne comptez 20 degrés, nuageux 17 degrés en Tasmanie à Hobart, comptez 23-24 degrés à Canberra et à Sydney, Brisbane toujours sous la pluie, on vient d'en parler, il fait 33 degrés et comptez 36 degrés à Cairns et 33 à Darwin. Le rappel des titres de ce dimanche 6 mars, fin du cessez-le-feu pour évacuer les civils en Ukraine. Les soldats russes ont repris l'offensive, le président ukrainien appelle les citoyens à ne rien lâcher. Et les intempéries sur la côte est de l'Australie, on vient d'en parler, ces intempéries continuent leur ravage. La première du Queensland lance un appel pour récupérer plus de 2 millions de dollars.
Programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aujourd'hui, pas de journal des sports, mais une page consacrée à Shane Warne, la légende du cricket, est décédée ce week-end en Thaïlande d'une crise cardiaque. Shane Warne avait 52 ans. À l'heure où l'on se parle, l'ambassadeur d'Australie en Thaïlande, Alan McKinnon, travaille étroitement avec la police pour ramener le corps du sportif ici à Melbourne.
Police station and the hospital in Gorsamui for facilitating this process and getting Shane Warne back to Australia as quickly as possible. They've been very compassionate, very efficient, and very understanding. So thank you, Superintendent. And that is the only statement we'll be making at this time.
Depuis hier, un sanctuaire s'est formé au pied de sa statue située à l'extérieur du MCG, le terrain de cricket de Melbourne. De nombreux fans lui rendent hommage.
He was the first, well, what I remember as being kind of the first cricketer that wasn't particularly straight-laced and perceived as quite sort of twee and boring. Like he was very, you know, very big character, but he brought a lot, I think, of himself personally, and that was a person that wasn't particularly boring. Like he's obviously out there to live life and enjoy it, and that's what he brought, I think, then to cricket, which made it a lot more colourful and interesting for spectators.
Et en parlant du MCG, justement, le Melbourne Cricket Ground, le ministre des Sports, Martin Pakula, a déclaré que la tribune Great Southern allait être nommée tribune Escawarn, une annonce qui sonne comme un honneur pour le président de Cricket Australia, le Dr Henderson. Écoutez.
That would seem a very appropriate acknowledgement of Shane Warne. You know, he's been an icon of the game. Obviously, Victorian St Kilda Cricket Club, Victoria, our Australian team for so many years. He also played cricket all around the world, so it's a very fitting tribute for Shane Warne.
L'annonce de la mort de Shane Warne intervient moins de 24 heures après l'annonce d'un autre décès, celui de Rod Marsh, une autre légende du cricket. Les joueurs de l'équipe australienne sont actuellement en phase de qualification au Pakistan. Ils sont tous sous le choc. On écoute Pat Cummins.
There's so many guys in this team and squad who, you know, still hold him as a hero, their all-time favorite player, and the loss that we're all trying to wrap our heads around is huge.
Shane Warne laisse derrière lui trois enfants de son union avec son ex-femme Simone Callaghan. Danielle Andrews, première du Victoria, a proposé d'organiser des funérailles d'État. On ignore encore si la famille de Shane Warne a accepté ou non cette proposition. Comment est à peine, titre interprété par Benjamin Biolay. Dans un instant et comme chaque dimanche, c'est la rubrique Le personnage du jour. Cette semaine est sans surprise consacrée à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Ancien acteur et humoriste, devenu président en 2019, il est aujourd'hui pour beaucoup un modèle mondial de courage face à la Russie de Vladimir Poutine. Son portrait, c'est tout de suite sur SBS French.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Comme chaque dimanche, nous revenons à présent bien sûr à un personnage en lien avec l'actualité. Focus aujourd'hui sur Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, dont le pays fait face depuis 10 jours à l'invasion russe. Zelensky, l'ancien acteur devenu en 2019 président ukrainien et qui fait office aujourd'hui de dernier rempart contre la Russie. Un sujet concocté avec des reportages de Radio-Canada et de la chaîne belge RTBF.
Сьогодні ми посилили обороноздатність та стійкість нашої держави.
Devant une carte de l'Ukraine presque immaculée, Volodymyr Zelensky se tient debout à côté d'un drapeau ukrainien. Il s'adresse aux Russes.
Вам говорят, що це пламя принесе освобождение народу України. На український народ свободен.
Des mots forts prononcés quelques heures avant le début de ce qui se voulait une opération militaire russe dans le Donbass et qui a mené les troupes jusqu'à la capitale Kiev.
Celui que Vladimir Poutine veut renverser, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il y a 3 ans, cet ancien comédien n'avait jamais fait de politique. Et aujourd'hui, il lutte pour défendre son pays. Son portrait avec Cédric De Vries et David Brichard.
21 avril 2019, Volodymyr Zelensky devient à 41 ans le président ukrainien. Sans aucune expérience politique, il est vainqueur avec près de 73% des voix.
L'ancienne vedette de la télévision devenue président de l'Ukraine s'est forgé une stature politique, celle d'un dirigeant fort au sang-froid. Volodymyr Zelensky avait créé la surprise en annonçant fin 2018 sa candidature au poste de président. Il a mené campagne contre la corruption et pour la paix dans le Donbass et récolté 73% des votes.
Avant son accession au pouvoir, Volodymyr Zelensky est acteur comique, vedette d'une série télévisée. Il y tient le rôle d'un professeur d'histoire qui se retrouve malgré lui à la tête du pays. Sa cote de popularité aidant, Zelensky décide de se lancer dans une vraie campagne présidentielle. La réalité rejoint la fiction et très vite il incarne le renouveau, un espoir pour l'Ukraine.
Depuis l'invasion russe, il a troqué son costume cravate pour des tenues de couleur kaki, la couleur militaire. Et dans les rues de Kiev, Il multiplie les appels à la mobilisation depuis son téléphone.
Originaire d'une région russophone de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky tente d'abord en tant que président de trouver un terrain d'entente avec Vladimir Poutine. Mais les tentatives de dialogue échouent et face à la pression toujours plus forte du Kremlin, l'ex-comédien se montre plus ferme et change de stratégie.
Il s'est plutôt par la suite concentré dans une deuxième partie de son mandat sur les partenariats occidentaux en demandant justement une procédure accélérée d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, à une procédure accélérée d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.
Des demandes de soutien très mal perçues par Vladimir Poutine et qui n'ont fait qu'envenimer les relations entre la Russie et l'Ukraine.
Saisissant toutes les tribunes qui lui sont offertes, actif sur les réseaux sociaux, le président ukrainien se transforme en chef de guerre, alors que Vladimir Poutine campe dans une image conventionnelle.
Depuis le début de l'invasion russe, Volodymyr Zelensky est clair, il ne quittera pas Kiev et défendra son pays jusqu'au bout.
Volodymyr Zelensky est toujours en Ukraine aux côtés des citoyens qui continuent de se battre jusqu'au bout. Sur une base plus singulière, la guerre des communications qu'il mène contre Vladimir Poutine semble tourner à son avantage. Ici Yasmine Khayat, Radio-Canada, Montréal.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio, du lundi au vendredi, à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS, tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Longtemps me taire, zoner tout devant, tout derrière, pour frissonner, pour ressentir, pour avoir quelque chose à dire. Mon ami, j'ai rien à t'offrir que ce silence qui te fera fuir ou cette parole surchargée.
Merveilleuse chanson que vous venez d'écouter s'appelle Que tous dansent, chantée par Noé Préchaud. Sortie l'année dernière seulement, elle vient de l'album À nous. Tout de suite sur SBS French, une série de reportages toujours consacrés à la guerre en Ukraine, les réfugiés en Roumanie, les oligarques, les prix du gaz, une compilation faite par Christophe Mallet qui permet d'y voir plus clair sur les conséquences de cette guerre sur l'Europe. A tout de suite.
Séquence de reportage maintenant dans l'émission. Alors que l'invasion russe s'est bien fait rage, en Ukraine, plus d'un million de réfugiés ont déjà fui les combats, selon les Nations Unies. En Roumanie, pays frontalier de l'Ukraine, la population se mobilise pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Un reportage de Benjamin Ribou.
Conscient d'être aujourd'hui du bon côté du monde, les Roumains se mobilisent pour venir en aide aux Ukrainiens fuyant leur pays. La Crameora et Yunus ont fait une quarantaine de kilomètres avec leurs fils et leurs filles. Leur coffre est rempli à ras-bord.
On est venu en signe de solidarité. Personne ne voudrait vivre ce qu'ils sont en train de vivre. À leur place, vous imaginez comme c'est appréciable, un sandwich, n'importe quoi. Ils ont dû partir comme ça, du jour au lendemain. Qui sait, dans une semaine ou deux, c'est peut-être nous qui serons dans cette situation.
Sur toute la frontière, on trouve des stands improvisés de part et d'autre de la route avec des vivres. Une partie de ceux qui arrivent à pied sont originaires de l'autre côté de la frontière, de la région de Tchernivtsi, où se trouvent beaucoup de gens d'ethnie roumaine. C'est le cas d'Ileana. Elle a attendu 7h30 avant d'entrer en Roumanie.
Quand je suis arrivée chez nos frères roumains et que les gens nous ont reçus avec de la nourriture, je me suis mise à pleurer. On est comme tous ces Syriens qui souffrent. Aujourd'hui, c'est nous les réfugiés. C'est vraiment horrible. On est parti comme on a pu, en emmenant ce qu'on pouvait. J'espère que Poutine va arrêter tout ça, mais je ne pense pas. Il veut prendre Kiev et installer son pouvoir. On est sûr de ça, même si on espère vraiment qu'il n'y parviendra pas.
Juste avant l'attaque russe, le ministre roumain de la Défense, Vassile Dâncu, annonçait pouvoir accueillir 500 000 réfugiés. Avant de tergiverser, à Siret, ce sont avant tout de simples citoyens qui viennent en aide ou des ONG locales avec un profil social ou religieux. Fight for Freedom, ONG liée à l'église néo-protestante, se trouve à Verecht, à 50 km de la frontière. Elle accueille normalement d'anciens détenus. Dans l'urgence, elle a improvisé un centre pour réfugiés. Igor et Ivana, la trentaine, sont arrivés la veille avec leur fille de 5 ans et leur nièce de 18 ans.
En nous levant, on a compris que c'était la guerre. On a entendu parler de bombardements et comme ma femme doit accoucher très vite, on a décidé de quitter le pays. J'ai eu de la chance car je suis entré en Roumanie juste avant que le gouvernement ukrainien annonce vouloir réquisitionner les hommes entre 18 et 60 ans.
Igor et Ivana espèrent désormais gagner l'Italie où se trouvent les parents d'Ivana. À Fight for Freedom, on attend encore beaucoup plus de réfugiés. L'ONG veut tripler sa capacité d'accueil dans les jours qui viennent et recevoir 140 Ukrainiens en transit.
Benjamin Ribou, donc. Direction maintenant Londres. Les Occidentaux tentent de toucher les Russes au porte-monnaie pour réduire la force de frappe des Russes. Londres a notamment décidé de limiter le champ d'action des oligarques russes qui sont nombreux à vivre dans la capitale britannique. Si nombreux qu'elle est souvent appelée Londongrad ou Moscou sur la Tamise. Reportage sur les traces de ces milliardaires russes dans la capitale britannique et les mesures qui les visent.
Eaton Square, dans le quartier chic de Belgravia, à l'ouest de Londres, on fait difficilement plus british. De cossues maisons individuelles géorgiennes aux colonnes blanches. Pourtant, Eaton Square a été rebaptisé de manière informelle Red Square, la place rouge, à cause du nombre d'oligarques russes qui y ont une propriété.
Welcome to the kleptocracy tour of Russia.
Cette place était l'un des arrêts des kleptocracy tours, des visites guidées du Londres des oligarques russes organisées avec l'ONG Transparency International par le groupe de pression Klamkei. Roman Borisovitch en est le fondateur. Il expliquait ici, lors d'une visite guidée organisée en 2018, comment certains de ces milliardaires russes ont gagné leur argent.
D'abord, ce ne sont pas des self-made men. Leur richesse provient de transactions avec le gouvernement russe. Soit ils ont vendu quelque chose à l'État russe à un prix surévalué, soit ils lui ont acheté quelque chose pour rien du tout. D'autres sont juste des responsables gouvernementaux qui se sont immensément enrichis grâce à leurs fonctions. Et enfin, ils achètent des propriétés, mais ils ne vivent pas ici.
Selon les derniers chiffres de Transparency International, des Russes détiennent un portefeuille immobilier valant plus d'1 milliard d'euros au Royaume-Uni, dont 70% à Londres. Toutes ces propriétés ne sont pas forcément le produit d'argent sale, mais selon Transparency International, plus de 41 000 sont détenues par des compagnies offshore. Une partie de ces propriétés est aussi détenue par des sociétés écrans enregistrées au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a présenté cette semaine un projet de loi qui pourrait forcer les propriétaires à dévoiler leur identité. Un texte qui serait même rétroactif sur 20 ans. C'est notamment parce qu'ils pouvaient cacher leur argent dans la pierre que les oligarques russes ont choisi la capitale britannique pendant des années. Mais pas seulement. C'est ce qu'explique Tyler Kustra, professeur à l'université de Nottingham.
Londres permet de vivre une vie de luxe mieux que n'importe quelle ville au monde. Ensuite, il y avait ce qu'on appelle le visa en or qui permettait à n'importe quelle personne investissant au moins 2 millions de livres de s'installer à Londres. Washington a interdit l'entrée à de nombreux Russes à cause de leur lien avec Poutine, alors que le Royaume-Uni avait ciblé que ceux qui étaient directement impliqués dans le démembrement de l'Ukraine.
Ce visa en or, officiellement appelé visa tiers 1 pour les entrepreneurs, a été abrogé début février. Le Premier ministre ne veut plus de Londongrad, mais il doit aussi se défendre contre des accusations liées au financement de son propre parti. Les conservateurs auraient reçu, selon l'opposition travailliste, plus de 2 millions de financements de la part de donateurs d'origine russe ou binationaux. Marie Billon, Londres, RFI.
Allez, pour conclure ces reportages cette semaine, et toujours bien sûr sur l'Ukraine, dépendante à plus de 50% de la Russie pour ses importations de gaz, l'Allemagne, et donc Berlin, est contraint à revoir de fond en comble sa stratégie énergétique. Et face aux inévitables augmentations de prix, la population est inquiète. Reportage Julien Méchaussi.
Quand les prix de l'énergie augmentent, c'est jamais bon pour qui que ce soit. Ce n'est pas bon pour le marché de l'emploi et ça entraîne automatiquement des augmentations sur tous les produits. On peut même avoir peur d'une énorme inflation. et ce serait dramatique pour notre économie.
Sur le chemin de son travail, cet Allemand exprime la peur partagée par nombre de ses concitoyens. Le déclenchement de la guerre en Ukraine a fait s'effondrer en quelques jours une politique énergétique vieille de plusieurs décennies. Importateur historique de gaz russe, l'Allemagne a ainsi, par la voix de son chancelier Olaf Scholz, suspendu l'homologation de Nord Stream 2. Gazoduc dont les travaux sont pourtant achevés depuis septembre 2021 et qui relie le nord de l'Allemagne à la Russie à travers la mer Baltique. Un projet stoppé net. Cette semaine, la société Nord Stream 2 a été mise en dépôt de bilan et plus de 100 collaborateurs ont perdu leur emploi. Professeur renommé d'économie environnementale et des ressources, Andreas Löschel souligne la naïveté de l'Allemagne.
Le vent avait déjà tourné dès le début de l'hiver, bien avant le déclenchement de la guerre. Les exportations de gaz depuis la Russie ont été réduites au minimum depuis plusieurs mois déjà, malgré des prix records. Nous voyons donc bien que cela fait partie d'une stratégie plus globale de la part de la Russie.
Une situation qui a même poussé Robert Habeck, ministre écologiste de l'économie, à envisager une augmentation des importations de charbon. La Fédération des petites et moyennes entreprises appelle de son côté un moratoire sur l'abandon du charbon d'ici 2030, pourtant décidé à la fin de l'année dernière. L'Allemagne cherche à présent à diversifier ses fournisseurs et va devoir se tourner vers des pays comme les États-Unis et le Qatar. Avec un problème de taille, ces pays exportent du gaz naturel liquéfié et l'Allemagne ne dispose à ce jour d'aucun terminal approprié.
Nous avons un besoin urgent de nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié. La construction d'un terminal prend cependant en moyenne entre 3 et 4 ans. On peut bien sûr tout faire pour que cela aille un peu plus vite, mais cette nouvelle stratégie ne saurait constituer une solution à très court terme. Nous allons donc devoir vivre avec les infrastructures actuelles. Cela va être difficile, mais une fois ces nouveaux terminaux mis en exploitation, le ciel devrait se dégager.
Abandonnés il y a 2 ans faute de soutien politique, 2 projets de terminaux sur les côtes de la mer du Nord ont été relancés en urgence, pour un coût qui approche le milliard d'euros.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Laurent Enclair. Bonjour Laurent.
Bonjour, comment ça va ?
Très bien, merci. Alors Laurent, on vous connaît bien sur SBS French, vous êtes un peu notre monsieur cinéma. C'est avec vous en général qu'on parle de films ou de séries françaises présentes sur la plateforme SBS On Demand. Mais aujourd'hui, c'est avec une autre casquette que nous vous recevons, puisque vous êtes l'un des tout nouveaux intervenants à l'Alliance française de Sydney, avec une nouvelle série de cours et d'ateliers qui ont l'air extrêmement intéressants, puisqu'en fait, vous allez donner des cours de français à travers le cinéma, mais ce n'est pas juste des cours de langue, d'après ce que j'ai compris. Il s'agit également de cours un petit peu sur les différentes régions et les différentes traditions et particularités des régions françaises. C'est ça ?
Oui, alors je vais en fait commencer 2 cours grâce à l'Alliance française et on fait un petit peu un partenariat aussi avec le festival du film qui a lieu en ce moment, qui a juste commencé. Et en fait, je fais un cours de français, donc plutôt pour des apprenants qui sont au niveau conversation, puisqu'ils vont beaucoup intervenir, où en fait, je vais faire un petit peu le tour de France des régions, parce que, bon, à mon avis, la géographie, c'est toujours intéressant à apprendre quand on apprend une autre culture, et puis sortir un petit peu de Paris. On parlera de Paris, bien évidemment, mais aussi d'autres régions, et montrer des extraits de films, voir des films qui ont été tournés dans certaines région, parler des lieux de tournage justement. Alors quelque chose que je vais essayer avec ces élèves, c'est de leur faire faire un petit peu leur faire refaire des petites scènes, des films, en leur proposant une partie du scénario. Et puis ils pourront pratiquer leur français avec des lignes qui sont déjà écrites. Donc ce qui permet de se focaliser vraiment sur la prononciation, sur l'accent et des choses comme ça.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples de films qui vont illustrer certaines régions, là, comme ça ? Bon, c'est peut-être trop évident, d'ailleurs, mais je me dis, si vous parlez un peu du Nord-Pas-de-Calais, vous allez peut-être leur montrer Bienvenue chez les Ch'tis, Jean de Florette pour la Provence, Les galettes de Pont-Aven pour la Bretagne, est-ce qu'ils sont dans la liste ou pas du tout
J'aimerais beaucoup leur montrer les galettes de Pont-Aven pour la Bretagne. Malheureusement, c'est pas un film qui est facile à trouver en diffusion et surtout ici en l'avoir en DVD pour que je puisse leur montrer des extraits. C'est effectivement un film excellent, mais pour les autres, oui. Alors sur les ch'tis, je vais pas les faire parler français sur des scénarios des ch'tis parce qu'ils parleront jamais français mais effectivement leur montrer le Beffroi de Lille et ce genre de choses, et puis sur d'autres films, par exemple sur le Nord et sur la Normandie, forcément on va parler des parapluies de Cherbourg, qui sont quand même un des films phares. Et puis je parlerai aussi, alors Jean de Florette pour le Sud, avec aussi quelques parties de La gloire de mon père pour faire écho sur Marcel Pagnol. Et puis sur l'Ouest, je parlerai de Cyrano de Bergerac, qui a été tourné au Mans. Ouais. Et qui montre la très très belle ville fortifiée du Mans. Et puis bien sûr la référence culturelle à Cyrano de Bergerac, aux fameuses tirades, en particulier la tirade du nez, donc qui font partie vraiment de la culture française et qui permettent de s'ouvrir sur cette culture. Et puis ma région à moi, le Poitou-Charente, où forcément je vais parler de Alceste à bicyclette, qui se passe sur l'île de Ré, ou des Demoiselles de Rochefort, qui se passe donc à Rochefort, forcément.
Bon, eh ben, tout ça, ça donne très envie. Et vous le disiez, en fait, il y a une deuxième série de cours, des masterclass même, que vous allez donner, pour le coup, vraiment plus spécifiquement sur le cinéma. Est-ce que, cette fois, le cinéma, pas en tant que support d'apprentissage du français ou des différentes régions, mais vraiment sur le cinéma en lui-même, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ?
Oui, alors ce deuxième cours, alors qu'on a appelé les géants du cinéma français, alors je le ferai en anglais, celui-là, comme ça peut permettre à n'importe qui à Sydney de s'ouvrir sur la culture du cinéma français. Et en fait, j'ai décidé de faire un petit peu un plein feu sur les grands noms du cinéma français et de passer à chaque fois un après-midi, enfin c'est un cours de 2 heures, enfin une masterclass de 2 heures, sur le destin de et les films d'une personnalité que beaucoup de gens connaissent en Australie. Donc en particulier on va commencer, c'est vrai que les premiers cours qui commencent la semaine prochaine, la semaine du 8 mars, on va commencer avec des liaisons avec le film, avec le festival du film, avec un premier après-midi avec Juliette Binoche, donc revenir sur l'excellente carrière de Juliette Binoche depuis les années 80, ça ne date pas d'hier finalement. Et puis on parlera aussi d'Alain Delon, de Gérard Depardieu, de Catherine Deneuve, et puis de quelques réalisateurs comme François Truffaut, qui est sans doute mon réalisateur préféré. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir partager tous ces chefs-d'œuvre avec des personnes de Sydney, et puis d'autres réalisateurs ou acteurs-réalisateurs comme Josiane Balasko, par exemple.
D'accord. Alors, ces deux types d'ateliers, ça commence quand ? Est-ce qu'il y a encore des places ? Et ce sera tenu à quelle fréquence ?
Alors, ce sera toutes les semaines pendant 8 semaines. À partir de la semaine prochaine, donc le premier cours commence le 8 mars, je crois, donc ce sera toutes les semaines. Le cours en anglais se fera l'après-midi, de 3h30 à 5h30, et le cours de conversation se fera plus tard à 6h, entre 6h et 8h du soir, pour permettre aux gens de venir après le travail. Donc ce sera 2 heures à l'Alliance française, donc sur Kent Street à Sydney, et toutes les semaines pendant 8 semaines pour s'ouvrir à toute cette culture du cinéma français.
D'accord. Alors petite question plus personnelle, puisque Laurent, on le sait, vous êtes un professionnel du métier, vous êtes scénariste. Oui. C'est la première fois que vous faites de l'enseignement ou vous avez déjà une petite expérience dans ce domaine ?
Non, alors je suis enseignant aussi en technique d'écriture sur l'animation à l'UTS. à l'Université de Technologie Sydney, où je m'occupe des élèves de 3e et 4e année qui font leur court-métrage de fin d'études. Et donc, en fait, je les aide à développer leurs histoires et leurs personnages. Ça fait 5 ou 6 ans que je fais ça, que je m'occupe de ce cours-là à l'université. Et certains de nos élèves ont été nommés aux ACTA Awards à Sydney, ou même l'année dernière, on a eu la chance d'avoir 2 de nos élèves qui ont été sélectionnés à Sundance comme meilleur court-métrage d'animation. Donc ça nous fait beaucoup de bien de voir que effectivement tout ce qu'on transmet, ben ça donne des résultats. Et donc c'est vrai que là, moi, mon amour pour le cinéma français et tout ce qu'il m'a apporté, puisque finalement c'est le cinéma français, les premiers films que j'ai vus moi en France quand j'étais adolescent, qui m'ont donné l'envie d'écrire, qui m'ont donné l'envie de devenir scénariste, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir maintenant partager cet amour, cette culture aux gens de Sydney, que ce soit pour qu'ils apprennent le français ou plus généralement même en anglais, pour qu'ils développent cet amour et cette compréhension du cinéma français qui reste un des cinémas les plus influençables sur le monde.
Très bien, merci beaucoup Laurent pour ces explications. J'appelle maintenant nos auditeurs qui seraient intéressés par ces cours à se rendre sur le site de l'Alliance française de Sydney, sur lequel ils retrouveront l'ensemble des informations pratiques concernant ces ateliers. Merci encore Laurent, et puis je vous souhaite une excellente session donc de français à travers le cinéma et de cinéma à travers ces illustres personnages français. Merci.
Merci beaucoup.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
C'était un focus sur le Festival du film français actuellement en Australie. Notre journaliste Grégory Pless s'est entretenu avec le scénariste Laurent Auclair. Une interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet SBS French ainsi que sur notre page Facebook et toutes vos plateformes de podcasts préférées. Il est presque 13h55 sur SBS French, l'heure du rappel des titres. Et on en parlait, la fin du cessez-le-feu pour évacuer les civils en Ukraine. Les soldats russes ont repris l'offensive, notamment dans la ville de Mariupol. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle les citoyens à ne rien lâcher. Les intempéries sur la côte est de l'Australie continuent leurs ravages. 17 personnes ont trouvé la mort, un bilan encore provisoire malheureusement. La première du Queensland, Anastasia Palaché, lance un appel pour récupérer plus de 2 millions de dollars. Et enfin, le décès de la légende du cricket Shane Warne. Les hommages se succèdent alors que l'ambassadeur en Thaïlande essaie de rapatrier son corps dans sa ville natale, ici à Melbourne. C'est la fin de cette édition française. Merci de l'avoir écouté, merci de votre fidélité. Je suis Marianne Murat, c'était comme à chaque fois un bonheur de passer cette heure avec vous. Vous pouvez retrouver ce direct également en intégralité sur notre site internet, notre page Facebook, on vient d'en parler, SBS French, ainsi que vos plateformes de podcasts préférées, Spotify, Apple Music. Le prochain programme en direct, c'est mardi, même fréquence, même heure, il sera présenté par Grégory Pless. Je vous souhaite de passer une excellente journée.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.